Frères et sœurs, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux, assure le Christ. Eh bien, aujourd'hui encore, c'est une expérience que nous vivons. Il est présent au milieu de nous à travers ce caractère universel que nous manifestons. Nos amis d'en Paris B, vous, fidèles d'entre les fidèles, qui avez bravé les éléments. Jean-François Fabat, qui vient avec quelques amis japonais. Anne Cattel, qui est présente ce matin parmi nous et qui demande le baptême. Vous, qui êtes peut-être curieux de ce qu'est un culte chrétien vécu dans son expression protestante. Eh bien, ensemble, nous manifestons ce caractère universel. Nous manifestons ce qu'est le Christ présent dans l'histoire des hommes. Il est présent au milieu de nous comme il est présent chaque jour, chaque heure de notre existence. Et je vous invite à vous lever pour nous réjouir par le chant du premier répond indiqué dans notre livret liturgique au début du psautier français. Éternel, je te loue. Je te loue de me surprendre quand je suis habitué. Je te loue de me reprendre quand je suis égaré. Je te loue de me prendre lorsque je suis perdu. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'homme, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Dieu vivant, tu es vivifiant. Amen. Et poursuivons notre louange par le chant du psaume 118 dans notre recueil de psaumes. Psaume 118, nous chanterons les strophes 1, 4 et 6. Prenons place pour entendre à nouveau ces paroles que Jésus laisse à ses disciples au moment de les quitter, des moments qui nous instituent le baptême. Et donc, Anne Cattel, ces paroles sont tout spécialement pour vous ce matin. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, leur dit Jésus. Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous nous recueillons dans la prière. Éternel notre Dieu, un jour peut-être nous avons été baptisés. Si c'est le cas, pardonne-nous de l'oublier parfois. Baptisés en ton nom de Père, force est de reconnaître que nous ne t'aimons pas de tout notre cœur. Nous ne savons ni dire ni montrer à quel point nous sommes tes fils et filles. Nous nous écartons de toi, nous voulons marcher seuls, sans autre considération que notre seule volonté. Baptisés au nom de ton Fils, nous reconnaissons que nous avons du mal à aimer notre prochain, et plus encore nos prochains. Et plus encore lorsqu'ils sont lointains. Nous cherchons le plus souvent notre propre intérêt au lieu de servir. Baptisés au nom de l'Esprit, avons-nous véritablement porté les fruits de l'amour, de la fidélité et de la joie? Alors nous t'en prions, accorde-nous ton pardon. Et donne-nous de vivre dans ta paix et à ton service. Amen. Ainsi parle l'Éternel, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous mon esprit. Je serai votre père. Vous serez mes fils et mes filles. C'est ainsi, frères et sœurs, que Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon. Et c'est ainsi qu'il nous donne de marcher tous ensemble vers son royaume. Alors, levons-nous pour chanter notre reconnaissance. Prenons place. Si vous avez l'occasion d'écouter Fréquence protestante, vous entendez souvent des voix qui vous sont familières, celles de quelques-uns de vos pasteurs sur l'antenne est à vous. Et vous entendez peut-être aussi une voix que vous ne connaissez pas encore dans l'émission La justice est à vous. Eh bien, cette voix, c'est celle d'Anne Cattel, que j'invite maintenant à me rejoindre près du baptistère. Anne Cattel-Martineau, qui depuis quelque temps a pris contact avec notre église, l'Oratoire du Louvre, pour y découvrir ce qui était l'objet de sa quête. Mais je vais vous laisser nous dire justement quelle était cette démarche, quelle était votre quête de spiritualité, de façon à mieux faire connaissance avec vous et pas simplement connaître votre voix.
Avant de demander le baptême, j'ai mis plus de 20 ans. J'ai longtemps été en quête de spiritualité pour sentir une véritable complétude. Issue d'une famille catholique, mes parents m'ont laissé vivre librement et faire mes choix. J'ai choisi mon mode de vie, mon métier et même ma religion. Beau cadeau que celui de la liberté de faire ses choix. Le parcours fut parfois difficile, mais riche de rencontres et de réflexions. Je tiens donc à remercier mes parents, aujourd'hui, de m'avoir encouragée à avoir un esprit critique. Mon premier engagement fut celui fait lorsque j'ai embrassé la profession d'avocat. L'origine historique de ce serment était quasi la seule trace de religion dans ma vie. Il y a 4 ans et demi, mes lectures m'ont menée jusqu'à l'Oratoire du Louvre pour rencontrer le pasteur James Woody, qui a donc été mon guide. Hasard, déterminisme, destin, peu importe. J'étais sur mon chemin pour vivre ma foi, non plus de l'intérieur, mais aussi au grand jour. Demander le baptême est tout simplement la manifestation de ma volonté de ne plus avoir peur de vivre ma foi en toute liberté, sans pression de quiconque, car je respecte les croyances et le chemin différent de chacun.
Alors il est important que tout cela se fasse précisément sans déterminisme. Quant au hasard, même les magiciens ne l'ont pas encore vraiment rencontré. Donc, de façon très rituelle, je vous pose la question, que demandez-vous ?
Je demande le baptême.
Anne Cattel, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira point, dit l'Éternel, car je t'aime d'un amour éternel. Amen. Anne Cattel, vous venez de recevoir ce signe de la grâce. Et ce signe se suffit à lui-même pour justement cette complétude à laquelle vous aspirez, pour vous donner une famille qui élargit encore celle que vous avez, celle qui vous a porté jusqu'ici. Mais nous avons aussi la possibilité de rendre compte de notre espérance, de pouvoir exprimer notre foi, de pouvoir exprimer ce qui pour nous a un caractère ultime. Et vous avez donc composé une confession de foi qui sera pour nous, frères et sœurs, notre confession de foi de ce jour. Et je vous invite donc à vous lever pour vous associer aux mots d'Anne Cattel.
Je crois en Dieu qui nous accompagne avec amour chaque instant, tout au long de notre existence vers la vie éternelle. Je crois en Dieu qui nous donne la force de dépasser nos doutes, nos peurs, pour avancer dans nos réflexions et nous guérir de nos blessures psychologique et physique. Je crois en Dieu qui nous aide à ne pas être centrés sur nous-mêmes, à exploiter nos dons, notre intelligence pour aider les plus vulnérables et tenter d'améliorer le monde. Je crois en Dieu qui nous fait avancer avec bienveillance sur le chemin de la foi. Amen.
Thank you.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Prenons place. Anne Cattel, vous venez donc d'être baptisée et vous avez répondu à cette grâce par l'expression de votre foi qui dit précisément ce vers quoi vous vous sentez appelée. Vous avez désormais votre place pleine et entière dans cette communauté de l'oratoire qui est l'un des visages de l'Église universelle que j'esquissais dans mes mots d'accueil tout à l'heure. Vous avez bien sûr votre place à la table du Seigneur, vous avez aussi votre place dans la vigne du Seigneur, c'est-à-dire votre place à l'œuvre, au travail maintenant. C'est là aussi le sens de l'éthique protestante, c'est de faire quelque chose de ce qui nous arrive. Nous allons en reparler. Que le Saint-Esprit vous affermisse dans cette foi et qu'il vous accorde tous ses dons, les renouvelle jour après jour sur ce chemin qui est désormais le vôtre. Frères et sœurs, nous nous recueillons dans la prière. Éternel notre Dieu, nous entendons ce matin célébrer l'amour, l'amour en plénitude, l'agapé, l'amour que tu manifestes pour la création, l'amour que Jésus-Christ a incarné auprès de chaque personne qu'il a rencontré, l'amour que nous sommes appelés à vivre au sein de la communauté des croyants, cette communauté d'hommes et de femmes capables de foi dans la vie. Anne Cattel en fait partie, nous nous en réjouissons. C'est cet amour qui renouvelle notre foi, c'est cet amour qui fortifie notre fraternité et qui donne de l'espoir à nos pas. Amen. Compte tenu des éléments qui ont été quelque peu déchaînés cette semaine et compte tenu d'une sorte de boutade qu'il y a entre Anne Cattel et moi qui, dès le départ, est pensée à Maître Martineau, et donc nous aurions pu imaginer un texte biblique qui fasse à la fois lien avec l'ambiance garde à vue, avec les cataractes qui tombent et puis le baptême qui évidemment a quelque chose à voir avec l'eau, mais c'est plutôt dans l'Évangile selon Jean que j'ai retenu un passage biblique qui nous parle de ce cheminement spirituel, de l'ouverture à la vie proposée par Jésus. Dans l'Évangile selon Jean, c'est au chapitre 9 que je vais vous lire les 9 premiers versets, puis les 3 derniers versets de ce chapitre. Évangile selon Jean au chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue, le terme grec c'est « il oignit », c'est une onction. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au réservoir de Siloé », ce qui se traduit par « envoyé ». Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble » et lui-même disait « Je suis moi ». À la fin de cet épisode, alors que les pharisiens sont entrés sur la scène, Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dirent « Nous aussi, nous sommes aveugles ?» Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites « Nous voyons !» Aussi, votre péché demeure. » Frères et sœurs, je vous invite à prendre à la fin de votre psautier français, dans le recueil des chorales luthériens, ce choral qui suit Pentecôte, « Viens Saint-Esprit, Dieu Créateur », nous laisserons à notre organiste le soin de nous jouer l'intégralité de la première strophe, après quoi nous chanterons l'intégralité de ce choral. Levons-nous pour chanter. Puissions-nous maintenant faire silence en nous-mêmes pour nous mettre à l'écoute d'une autre voix que la nôtre. Puissions-nous maintenant nous mettre à l'écoute des bruissements de la vie portés à sa plénitude. Chers frères et sœurs, ce texte ne parle peut-être pas de déluge, mais je trouve que la réponse de Jésus est une véritable douche froide. Aux disciples qui demandent si c'est l'aveugle de naissance ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle, Jésus répond « Ni lui ni ses parents, mais afin que soient manifestées les œuvres de Dieu. La question des disciples était déjà assez choquante. Elle est symptomatique d'une théologie de la rétribution qui considère que nous sommes pour quelque chose dans les malheurs qui nous arrivent. À toute faute doit correspondre une sanction. Mais pire que cela, à tout malheur doit correspondre une culpabilité et donc une sanction. Dieu pourrait nous punir par des déconvenues d'ordre matériel ou physique, voire nous infliger la peine de mort dans cette théologie-là. C'était déjà le cas avec les amis de Job, ce personnage de l'Ancien Testament. Les amis de Job ne pouvaient pas imaginer que Job souffre sans y être pour quelque chose. Dans une certaine mesure, c'était certainement bien fait pour lui. Et c'est encore le cas avec les disciples, qui ne peuvent pas imaginer que nous soyons innocents de nos maladies, de nos handicaps, de nos problèmes. Et c'est toujours le cas avec les personnes qui cherchent systématiquement des coupables au moindre événement, au moindre fait. Ceux-là pensent que nous pouvons être épargnés de tout problème, de toute déconvenue, dès lors que nous marchons dans les clous, dès lors que nous appliquons scrupuleusement les préceptes divins. Autrement dit, si nous sommes véritablement croyants, rien de grave ne peut nous arriver. En revanche, si nous rencontrons des difficultés, alors c'est que nous l'avons bien cherché. Dans cette perspective, si un individu est né aveugle, c'est qu'il y est pour quelque chose. Donc la question des disciples traduit déjà une théologie passablement désagréable. Mais la réponse de Jésus est, pour le moins que nous puissions en dire, ambigu, c'est un euphémisme. Alors cette réponse peut être comprise de différentes manières. Elle peut signifier que cette personne est aveugle pour que Dieu puisse manifester sa puissance. Et c'est ainsi que cette phrase est le plus souvent comprise. Cela revient à dire que Dieu se serait arrangé pour que cet homme naisse aveugle, afin qu'il puisse être guéri devant des témoins, et que cette guérison ne laisse aucun doute sur la majesté divine de l'Éternel et sur son pouvoir d'intervenir sur le cours des événements. Dans ce cas, si nous nous intéressons à ce qu'est l'homme, l'homme n'est qu'un jouet dans les mains d'un Dieu qui cherche à épater la galerie. Dans ce cas, les êtres humains ne sont que des faire-valoir, des objets de foire dont on peut disposer à son gré pour avancer des thèses, pour renforcer un sentiment. Ils sont instrumentalisés par Dieu. Dans ce cas, il n'est plus question d'être sujet de son histoire. Alors cette perspective, lorsqu'elle est menée au bout du raisonnement, entre en contradiction avec ce qui sera la pointe de ce passage biblique, la capacité de cet homme à dire « Je suis moi ». Vous l'avez entendu au verset 9, « Ego eimi », « Moi, je suis ». Cette capacité emblématique de la liberté individuelle, de la capacité de l'être humain à assumer sa vie et non à être un fétu de paille ballotté par le cours des événements. Deuxième manière de comprendre cette réponse de Jésus, cette fois dans un sens pédagogique. Cette compréhension autorise les expressions que nous entendons assez souvent, « il faut souffrir pour être beau ». Et j'entendais encore récemment Boris Cyrulnik dire « pour être heureux, il faut avoir souffert ». Le mal, le malheur, la souffrance serait alors un chemin vers une vie meilleure, une pédagogie du bonheur. Vous voulez être heureux ? Très bien. D'abord, il faudra souffrir un peu. C'est bon pour ce que vous avez. Que de la souffrance puisse conduire à un bonheur plus grand ou à une vie plus harmonieuse, prenons conscience que c'est parfois le cas effectivement. C'est la douleur d'une piqûre qui est parfois les prémices d'une guérison. Il y a donc des moments où de la douleur est un passage obligé pour un mieux-être. Le problème, c'est quand c'est systématisé. Et dans cette perspective se placent ceux qui défendent la toute-puissance de Dieu au regard des drames humains. Ces drames servent des causes plus grandes que nous. Tel malheur, à notre échelle, participerait à un plus grand bonheur à une grande échelle. Peut-être sur un temps beaucoup plus long que ce que nous pouvons appréhender. Autrement dit, les défenseurs de cette pédagogie de la souffrance envisagent qu'il faut replacer ce que nous subissons dans un cadre beaucoup plus grand dont nous n'avons pas les tenants et les aboutissants. Ce qui est problématique, c'est le caractère nécessaire. Il faudrait nécessairement souffrir. Il faudrait nécessairement subir le malheur. En théologie chrétienne, cela reviendrait à dire que les êtres humains doivent compléter les souffrances du Christ pour être dignes de l'amour de Dieu ou pour atteindre la félicité. Autrement dit, c'est une perspective qui entre en conflit avec ce que l'apôtre Paul nous dit de ce que Jésus a vécu, à savoir, il rend désormais tout sacrifice inutile. À supposer qu'il y ait une lecture sacrificielle de la vie de Jésus, eh bien en tout cas, elle nous dit que plus aucun sacrifice n'est désormais nécessaire. Les douleurs ne font plus partie du programme nécessaire, indispensable, pour atteindre une vie heureuse. Nous voyons que ces deux premières interprétations sont passablement pénibles, non pas parce que la douleur et la souffrance sont pénibles, après tout, on s'adapte à tout, mais c'est parce qu'elles sont en contradiction avec ce que nous lisons par ailleurs dans la Bible. Autrement dit, il y a une forme d'incohérence à vouloir absolument tenir cette phrase de Jésus comme une justification de toutes les abominations que nous devrions endurer. Une troisième lecture consiste à repérer que Jésus prend le contre-pied de ses disciples. Il récuse leur hypothèse. Tout commence par une réfutation. L'homme n'est aveugle ni à cause de ce qu'il a fait, ni à cause de ses parents. Ce que Jésus fait est exemplaire. Il rompt tout lien de cause à effet entre le fait d'être aveugle et un péché qui reviendrait à l'aveugle ou à ses parents. Ce que dit Jésus ici est assez intéressant. Il dit que le péché ne se transmet pas. Il dit que c'est même précisément l'inverse. Le péché, c'est l'absence de transmission. En répondant « afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui », Jésus prend le contre-pied des disciples en ne mettant pas Dieu à l'origine de ce qui est arrivé à l'aveugle, mais comme perspective de ce qui va lui arriver. Pour le dire de manière moins abstraite, Dieu est du côté de l'avenir. Dieu, c'est ce qui nous attire vers un avenir. Et pour le dire aussi simplement que possible, Dieu est ce qui nous permet de faire quelque chose de ce qui nous arrive. En mettant Dieu du côté de l'avenir, alors que les disciples le mettaient dans le passé, Jésus réforme la théologie de ses contemporains. Et la nôtre, par la même occasion, nous qui avons tendance à mettre toujours Dieu du côté des causes, à mettre toujours Dieu dans le passé, dans l'histoire, à faire une archéologie de Dieu. Dieu n'est pas une cause. Dieu est une perspective, ici même. Dieu ne fait pas ceci ou cela. Dieu est ce qui nous attire inlassablement vers une vie aussi épanouie que possible. Pour reprendre la structure de cet épisode biblique, Dieu est ce qui nous fait passer d'une vie à tâtons, lorsque nous sommes aveugles, à une vie avec une grande profondeur de champ, avec de l'amplitude. Dieu est ce qui repousse en permanence notre horizon. Alors, cette histoire d'aveugle, évidemment, est une histoire symbolique. J'aurais pu commencer par là. Mais j'ai fait l'hypothèse que vous vous en étiez aperçu. L'aveugle de naissance ne souffre pas d'un problème physiologique, comme l'atteste la suite du récit. D'une part, les gens qui connaissaient cette personne ne la reconnaissent pas après qu'elle est allée à la piscine de Siloé. Cela met en évidence que ceux qui ne voient pas ne souffrent pas forcément de cécité. D'autre part, les pharisiens qui prennent part à la scène vont finalement s'écrier « Mais alors, nous aussi, nous sommes aveugles ?» Ben oui, bien sûr. Être aveugle de manière symbolique. Être aveugle d'une manière de vivre qui empêche de voir vraiment le monde. Dans ce récit, comme dans notre vie quotidienne d'ailleurs, les vrais aveugles ne sont pas ceux qu'on croit. L'aveuglement le plus fort est chez ceux dont l'intelligence est fermée à double tour. Lorsque nous sommes si sûrs de nous que nous ne prenons même plus la peine d'interroger les situations, que nous ne prenons même plus la peine de regarder ce qui se passe, c'est alors que nous sommes aveugles. Combien de conflits ces dernières semaines, ces dernières années, à cause d'informations non vérifiées, notamment sur les réseaux sociaux, sans vouloir forcément les disqualifier? Combien d'informations relayées à l'aveugle qui sèment du clivage? Combien de propos tirés de leur contexte qui sont répétés, si possible amplifiés et déformés, sans prendre la peine d'obtenir la moindre confirmation, sans prendre la peine de se pencher sur ce qui a été vraiment dit ou fait? Combien d'images circulent pour dénoncer une situation qui ont déjà 25 ans d'âge ou qui sont prises dans un pays qui n'est même pas celui incriminé? Les personnes qui vivaient avec l'aveugle de naissance étaient tellement habituées à sa présence qu'ils ne la regardaient plus. Ils ne scrutaient plus cet aveugle. Ils n'avaient peut-être même jamais essayé de le connaître. Et ceci explique que lorsqu'il revient vers eux sans avoir besoin d'être assisté, sans sa canne blanche peut-être, ou sans son chien guide d'aveugle, eh bien ils ne le reconnaissent pas, parce qu'ils ne l'ont jamais connu pour ce qu'il était. Ils ne l'ont jamais connu que pour les attributs qu'on lui prêtait, pour la surface des choses, pour les accessoires dont il était muni. Ils ne l'ont jamais connu pour lui-même. Il n'y a pas que les autres qui parlent de ce qu'ils ne connaissent pas. Pour faire bonne figure en société, il peut nous arriver, nous-mêmes, de parler de faits que nous n'avons pas vus, de situations que nous n'avons pas observées, de propos que nous n'avons pas entendus directement. Mais à défaut d'analyse personnelle, nous sommes toujours capables de pouvoir délivrer une opinion. Nous sommes souvent dans la compétition de celui qui aura l'opinion la plus fulgurante. En d'autres termes, nous serons toujours capables de mettre en avant notre idéologie, ces idées toutes faites qui nous tiennent lieu de penser en toutes circonstances. Voilà à quoi Jésus est confronté en permanence et notamment dans cet épisode. Il est confronté à des idéologues. L'idéologue est celui qui n'a pas besoin de voir, ni d'entendre, ni d'interroger, ni de sentir. Il a une grille de lecture qui est prête à l'emploi. Il sait déjà ce qu'il va répondre avant même qu'on lui ait posé la moindre question ou qu'on lui ait soumis le moindre problème. Karl Barth avait cette formule délicieuse: « Je ne sais pas quelle est la question, mais la réponse est Jésus-Christ ». Voilà l'idéologie dans toute sa splendeur. Je disais un peu plus tôt que le péché est l'absence de transmission. Il est question de péché dans ce texte, Et le péché surgit quand plus rien ne se transmet, quand les communications sont interrompues, quand chacun campe sur ses positions, quand chacun entend défendre sa position coûte que coûte. Contrairement à l'idée reçue, qui, elle, s'est bien transmise, idée selon laquelle le péché se transmettrait de génération en génération à cause d'un péché dit originel, qui n'a toujours pas été débusqué dans les textes bibliques, soit dit en passant. Eh bien, le péché ne se transmet pas de génération en génération, il survient à chaque génération où la transmission est interrompue. D'ailleurs, reprenons cet épisode du petit jardin avec Adam et Ève. À supposer qu'il y ait le moindre péché à ce moment-là, quelle est la nature du problème ? Eh bien, c'est que Adam n'a pas transmis les consignes à Ève. Si nous nous en tenons à la narration du livre de la Genèse, Dieu informe Adam de ce qu'il doit faire et de ce qu'il ne doit pas faire, et Adam oublie d'en parler à sa compagne. La non-transmission est source de problèmes. Le péché survient quand on cesse d'accueillir ce qui vient à nous. Le péché, selon l'évangile de Jean, nous l'entendons dès le prologue, c'est le fait de ne pas accueillir la lumière. C'est le fait d'être aveugle, au sens d'être fermé à la vérité, qui est toujours au-delà de nous. Si vous voulez posséder un petit bout de vérité, la meilleure manière de faire, c'est de vous intéresser à ce qu'il y a autour de vous. C'est d'aller découvrir la part de vérité que l'autre tient à sa disposition et à notre disposition. Le péché n'est pas une maladie qui se passerait comme le mistigris. Le péché est ce qui arrive quand on cesse d'aller à Siloé, ce qui en hébreu signifie « l'envoyé ». Et l'envoyé, c'est Dieu. Jésus lui-même dit « Dieu est celui qui l'a envoyé ». L'envoyé, précise l'évangéliste, pour être certain que personne ne passe à côté de cette information capitale. Pour sortir de notre aveuglement, rien de tel justement que de sortir. L'aveuglement ne se résout pas par l'onction de cette boue faite de terre et de salive. L'aveugle a besoin de se rendre auprès de l'envoyé. L'aveugle a besoin de sortir, d'aller à l'envoyé. Retour à l'envoyé. C'est la meilleure manière de ne pas s'en tenir à son quant à soi. Si nous aimons l'ouverture, ici et dans notre protestantisme chéri, c'est notamment pour cette raison. L'ouverture aux autres, l'ouverture à la différence, l'ouverture à l'inattendu, l'ouverture des yeux, l'ouverture de la bouche, l'ouverture le dimanche et les jours fériés, puisque c'est un jour de Shabbat que Jésus pratique cette libération, l'ouverture nous intéresse. Parce que nous pressentons bien qu'elle fait partie, sinon de notre ADN, du moins de notre vocation. Ce que fait Jésus, c'est d'ouvrir les yeux de cet homme. C'est l'ouverture radicale. Notre foi ne peut pas viser le repli sur soi. Notre foi ne peut pas viser le repli identitaire. Quand elle confesse un Christ qui n'a pas cessé de l'ouvrir, et d'ouvrir tout ce qu'il pouvait chemin faisant. Il a ouvert les yeux pour que ceux qui ne voient pas se mettent à voir, ce qui a rendu aveugles ceux qui pensaient voir, comme cela est finalement rapporté au verset 39. Plus on ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas, plus on leur transmet les clés de compréhension, plus on leur offre les moyens de se diriger seuls dans la vie, plus on les libère de toutes les tutelles possibles et inimaginables, plus on les informe, plus cela crée de la crispation, évidemment, chez ceux qui ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez, chez ceux qui ne veulent pas voir le monde tel qu'il est, chez ceux qui ne veulent pas voir le monde autrement qu'ils l'ont toujours vu, qu'ils l'ont toujours connu. Cela même qui ne voit plus le monde en évolution, qui refuse les changements, qui refuse que la vie soit vivante et vivifiante. ceux-là même qui ne peuvent plus reconnaître leur réel parce qu'ils sont enfermés dans leur réalité, dans leur représentation de la vie, figée à jamais. Notre foi est ouverture, une grande ouverture, une ouverture sur nos prochains et nos lointains, car la focale est grande, elle est même infinie, elle est aux dimensions de l'univers en ce qui concerne les récits bibliques. Notre foi, en ne se focalisant pas sur notre petite personne et en n'étant pas rivé sur le passé de notre foi, en étant gourmande de ce qui nous est envoyé, de ce qui arrive, nous dispose à pouvoir réagir à ce qui nous arrive et à pouvoir faire quelque chose de tout cela. Au lieu de nous maintenir dans l'obscurantisme que produit l'idéologie qui n'offre que l'ombre de la vie, eh bien la foi que révèle Jésus nous équipe pour mettre en lumière notre présent, notre futur. À quel but ? Eh bien, y être un sujet, être sujet de notre histoire. Pouvoir, à la suite de cet aveugle de naissance, dire « moi, je suis ». Je suis moi. Affirmer un « je suis » face à toutes les situations figées. Pouvoir affirmer notre singularité face à ce qui est déterminé. Au lieu d'être des objets des forces obscures, que fait l'Évangile ? Sinon, faire de nous les sujets de sa gracieuse majesté, l'Éternel. Amen. Dans tout album de musique, il y a toujours une ou deux plages qui ne sont pas très connues, qui ne sont pas très appréciées. C'est fait exprès pour souffler. C'est comme dans les concerts, on ne peut pas être en permanence au sommet. Donc nous avons eu le choral 29 pour que vous ayez un peu une pause. Maintenant, nous allons chanter le cantique 202. Et là, de façon tonitruante, avec profondeur, amplitude. Donc levons-nous pour chanter ce cantique, nos cœurs pleins de reconnaissance, avec toute la fougue qui convient. En place. Je vais donc tout d'abord donner la parole à Alain Moineau, notre vice-président, pour une information au nom du Conseil presbytéral.
Bonjour, je suis heureux de saluer une si belle assemblée et d'autant plus heureux que j'ai une information importante et positive à vous transmettre. En fait, il aurait appartenu à André Ducrot, le président du Conseil, de vous la transmettre, mais pour des raisons familiales, il ne peut être avec nous ce matin. Je voulais vous dire que nous avons reçu cette semaine une lettre de Bertrand de Cazeneuve nous disant que le Conseil régional avait validé l'arrivée le 1er juillet 2017 de Richard Cadou comme pasteur à l'oratoire en remplacement de James Woody. Richard Cadou est pasteur actuellement à Vernoux en Vivarais. S'il a été, il a œuvré, excusez-moi, je charme mes petites notes parce que je ne connais pas par cœur hein, son CV. Il a œuvré à Gennevilliers, à Aubervilliers, à Niort et il est actuellement à Vernoux. C'est un pasteur expérimenté, un théologien de haut niveau qui non seulement est convaincu de l'importance de la prédication, mais aime la prédication. Il est bien entendu de tendance libérale. Il est marié. Son épouse se réjouit de venir nous retrouver et participera à la vie de la paroisse. Elle est médecin. Voilà, donc certains d'entre vous l'ont déjà entendu puisqu'il a prêché à l'oratoire le 25 mai 2012 et le 19 janvier 2014. Donc on peut retrouver sur le site les prédications. Et il viendra prêcher à nouveau le 9 janvier 2017. Donc avis à ceux qui voudraient l'entendre en chair et en os, si j'ose dire, s'ils n'ont pas fait déjà, le dimanche 9 janvier 2017. Voilà. Donc maintenant, les choses sont définitivement arrêtées. Nous avons bien sûr, dès que nous avions été informés de la perspective du départ de James, nous étions préoccupés de rechercher un remplaçant qui soit digne de la succession et de l'oratoire. Et le conseil presbytéral qui a entendu Richard Cadoux et longuement discuté avec lui, comme je veux être précis, je vais retrouver ma note aussi, c'était le 11 avril, à l'issue du long échange que nous avons eu avec lui, le conseil presbytéral, à l'unanimité, a décidé de confirmer son appel. Et cet appel, bien sûr, lui-même l'a accepté. Et le conseil régional de Parisien ou Île-de-France l'a confirmé. Voilà, la procédure est donc maintenant terminée. Bien entendu, nous regrettons tous le départ de James et de sa famille. Mais nous pouvons nous réjouir d'avoir, avec Richard Cadoux, très certainement un successeur digne de notre paroisse, digne de notre Église. Et qui répondra très certainement à nos attentes et fera une belle équipe avec Marc. Voilà.
Je vais ensuite passer la parole à deux autres conseillères presbytérales, cette fois, Laurence Tardy et Daniel Aubi, qui. Non, juste Daniel ? Non, Laurent Gilquin. Mais oui. Qui vont donc nous faire une petite communication sur les bénévoles.
Chers amis, bonjour. À la fin du culte, chaque dimanche, lors des annonces, vous avez certainement remarqué que les activités de la paroisse sont nombreuses. Pour mener à bien toutes ces activités, vous nous apportez déjà votre aide. Mais nous avons besoin d'être plus nombreux encore. Nous préparons dès à présent les journées du patrimoine et nous comptons sur vous les 17 et 18 septembre. Vous voyez, nous nous y prenons à l'avance. Pour accueillir et répondre aux questions des visiteurs. Si vous hésitez à vous engager, sachez que Laurence Tardy, ici présente, a la gentillesse d'organiser une visite du temple de l'oratoire le samedi 18 juin dans l'après-midi. Si vous acceptez d'y participer, et de participer ensuite aux journées du patrimoine, venez, inscrivez-vous, communiquez-nous vos mails et nous vous recontacterons et nous vous donnerons tous les détails. Et si... Voilà. Vous pouvez également communiquer vos mails au secrétariat en précisant tout simplement bénévole aux journées du patrimoine et à la visite du temple et vos coordonnées nous seront communiquées et nous vous rappellerons.
Donc je vais un petit peu lister nos besoins. Donc nous avons besoin de vous tous les dimanches pour garder les tout-petits, pour tenir aussi le stand de la librairie.
Mais nous avons aussi besoin de vous deux fois par mois pour préparer l'accueil qui se tient dans la grande sacristie.
Alors il y a également aussi le repas paroissial, comme aujourd'hui. Donc il exige beaucoup de préparation pour l'éducation biblique également, où il y a des enfants, beaucoup d'enfants, pour le covoiturage lors des cultes avec la scène et pour les après-midi de l'oratoire.
Et bien sûr pour la vente, le premier week-end de décembre.
Voilà, nous ferons aussi appel à vous pour une aide ponctuelle au niveau bureautique, pour l'accueil du public lors de manifestations exceptionnelles ou l'organisation d'événements impromptus.
Alors il n'est pas question bien sûr que vous vous engagiez pour tous les dimanches ou toutes les activités, mais venez voir comment fonctionnent les équipes et vous participerez selon vos possibilités et vos préférences.
Voilà, donc ben, nous vous remercions et puis nous vous attendons au stand librairie pour une aide. Voilà, merci.
Avant de passer la parole aux éclaireurs, je vous déroule un peu le programme de cette semaine. Donc, nous sommes le premier dimanche du mois. À l'issue du culte, un repas est organisé à la salle Mono, ce qui nous permet de pouvoir prolonger le temps avec nos amis malgaches. Donc, vous pouvez bien sûr vous y rendre. Lundi, à 19h30, le groupe de grec biblique progressant se réunit en face. Le lendemain, le chœur a sa répétition à 19h30 pour préparer le concert du 19 juin. Le groupe biblique se réunit à 19h30 et à 20h, une soirée animée par Jean-Pierre Rive avec Geneviève Jacques, qui est présidente de la CIMAD. Et la question sera de s'interroger sur les défis migratoires pour savoir si ces flux migratoires sont un appel d'air ou une bouffée d'oxygène. Donc, mardi, 20h, salle Mono. Vendredi aura lieu une heure musicale à 12h30, donnée par Kurt Loiders, qui est organiste au Temple du Saint-Esprit. Samedi 11 à 18h, aux 4 rues de l'Oratoire, prière silencieuse. Et dimanche prochain, dimanche 12 juin, c'est à la fois une journée catéchétique avec l'ensemble des familles, et aussi le culte dominical qui sera présidé par Marc. Je laisse maintenant la parole à nos éclaireurs.
Bonjour. Aujourd'hui, nous organisons une sortie gâteau pour récolter des fonds pour acheter du matériel pour notre camp. Nous nous situons à la sortie de l'église. Nous avons du sucré et du salé. Merci de venir nous voir et peut-être à bientôt.
Voilà une prédication vivante qu'on peut être jeune avec un sweatshirt à capuche et être un bâtisseur. C'est maintenant le moment de l'offrande. Eh bien, réjouissons-nous pour toutes ces bonnes nouvelles que nous avons entendues et pour préparer la venue du pasteur Richard Cadou. Il faut que notre église soit encore en forme, donc c'est le moment d'y mettre les moyens nécessaires. Nous nous unissons dans la prière. Ô notre Dieu, tu es le Dieu des choses impossibles. C'est pourquoi nous venons vers toi. Dieu de Moïse, on nous a dit que tu avais su ouvrir la mer infranchissable pour ton peuple en marche. C'est impossible, Seigneur. Mais puisqu'il en a été ainsi, viens aujourd'hui encore rendre possible l'impossible. Devant nous aussi, il y a des mers infranchissables, celles des peurs, celles des mauvaises volontés, celles des ignorances de toutes sortes qui sont autant d'aveuglements. Nous t'en prions, Dieu des choses impossibles, viens ouvrir toutes ces situations fermées, tous ces esprits bouchés. Viens ouvrir la lassitude où parfois nous nous épuisons. Et conduis-nous enfin vers une terre où coule le lait et le miel, pour tous et pour chacun. C'est impossible, Seigneur. C'est pourquoi nous venons vers toi. Nous venons vers toi avec les mots que Jésus nous a offerts pour que nous puissions exprimer pleinement notre espérance. Et nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.